Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec monsieur Gilbert Julien. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gilbert Julien, vous êtes coprésident de Solidarité Paysan Nationale et vous êtes au téléphone pour nous parler d'une feuille de route qui permettrait de détecter le mal-être des paysans. Et pour ça, vous avez quelques mots à dire et voire même quelques contrariétés, je crois.
Alors, effectivement, cette feuille de route, déjà, ce n'est plus qu'une feuille de route, depuis plusieurs mois, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé un plan, ce plan est devenu une feuille de route qui, en fait, ne s'attaque pas vraiment aux responsabilités collectives des difficultés agricoles. Elle propose, entre autres, ce qu'ils appellent les sentinelles et qui pour nous apparaît un dispositif, je dirais d'une certaine façon, infamant et stigmatisant les agriculteurs en difficulté.
Cette feuille de route, avant de pouvoir en parler, comment est-elle présentée justement vis-à-vis des paysans à leur adresse ?
Alors, cette feuille de route, comme je vous le disais, est surtout bâtie sur un dispositif de sentinelle, c'est-à-dire de détecter les agriculteurs en difficulté auprès d'un ensemble de partenaires que sont les coopératives, la MSA, la banque, les vétérinaires, les médecins. Et dont on peut observer que pour la plupart ce sont des créanciers de l'agriculture. Donc on peut douter de la bienveillance qu'ils peuvent avoir à l'égard de leurs débiteurs. Ensuite, il y a tout un aspect d'humaniser, et là on ne peut en aucun cas contester cet aspect-là, c'est-à-dire pour le ministère, avoir un contact plus humain pour l'administration avec les agriculteurs en difficulté rendre éventuellement la charge administrative que portent les agriculteurs et qui est très lourde pour eux plus facile. Mais visiblement, on verra ce que ça donnera. Un autre volet qui nous intéresse, c'est l'aide au répit et la facilité d'accéder à cette aide-là, qu'on ne peut qu'applaudir, mais parce qu'il y a tout de même un mais, le problème de l'aide au répit qui va être renforcé se pose sur un autre problème qui est celui des services de remplacement et dont on sait qu'ils disposent d'assez peu d'ouvriers agricoles qui puissent remplacer au pied levé les agriculteurs qui bénéficient de l'aide au répit, c'est-à-dire qui peuvent partir quelques jours hors de leur exploitation, des espèces de vacances, des vacances pour prévenir ou réparer un burn-out ou des problèmes de surtravail, leur permettre de se reposer un peu.
D'ailleurs, on peut parler de ces problèmes que vivent certains paysans. D'abord, en premier lieu, est-ce qu'on pourrait avoir une idée par un chiffre des paysans qui sont justement concernés par ce problème ?
Alors, avoir un chiffre, j'en ai pas vraiment en tête à vous proposer. Solidarité Paysan accompagne sur le territoire français tout de même 3000 familles d'agriculteurs en difficulté. Alors forcément, ils ne sont pas tous en détresse, mais une bonne partie éprouve de grosses difficultés à se lever et travailler le matin du fait de la pression qui est exercée, à la fois la pression économique et la pression également administrative via Internet, à aujourd'hui, lorsqu'on fait une déclaration PAC, se tromper ou cocher la mauvaise case peut avoir des conséquences très graves et on ne peut y revenir dessus que très très difficilement.
Vous parlez des difficultés financières, on peut parler même aussi psychologiques liées à toutes ces problématiques. Justement, le secteur rural est très en deçà des capacités d'assistance, que ce soit psychologique, médicale, et aussi peut-être des services de l'État, puisqu'il y a une dématérialisation administrative également. Comment vous présentez l'ensemble par rapport à ces difficultés ?
Alors, effectivement, le milieu rural, les structures, les institutionnelles se sont petit à petit retirées, ce qui ne facilite pas les choses dans le rural profond, en pensant que Internet et les rapports via des mails faciliteraient les choses, mais on s'aperçoit que possibilité-là, beaucoup de paysans en sont éloignés et ont donc du mal à pouvoir faire toutes les déclarations en ligne qui seraient nécessaires. Donc il y a une fracture numérique qui existe et qui est assez importante en milieu rural.
La transition par la dématérialisation, ça c'est un facteur de difficulté. Justement, il n'y aurait pas à remettre à plat l'organisation telle qu'elle était.
Alors, il pourrait y avoir peut-être, on pourrait envisager, mais là, on sort un peu du cadre du travail de Solidarité Paysan qui n'a pas vraiment réfléchi à des préconisations à ce niveau-là. Mais bon, à défaut, on pourrait envisager qu'il y ait des lieux présents qui permettent d'échanger. C'est ce qui commence parfois à se faire dans certains milieux ruraux où des bureaux sont créés pour venir en aide pas seulement aux paysans, mais à la population rurale en général et leur faciliter les tâches administratives avec des personnes qui les aident à le faire.
Voilà, il y a quelques services qui ont émergé, Agence France Service, je crois. Il y a cette feuille de route qui est missionnée par qui alors ?
Alors, cette feuille de route est issue de travaux. D'une part, le rapport des deux sénateurs, M. Cabanel et Mme Ferrand, et puis ensuite du rapport d'Amézin. Qui ont travaillé sur les agriculteurs en détresse. L'idée, c'était de lutter aussi contre le mal-être et le suicide des agriculteurs et qui, déjà, avaient, en leur temps, nous avions fait quelques communiqués de presse aussi qui précisaient déjà ce qu'on contestait dans ces deux rapports. Je dirais que cette feuille de route est une synthèse à minima de ce qui avait pu être préconisé, tout particulièrement dans le rapport des sénateurs où il y avait quand même quelques éléments intéressants qui n'ont pas nécessairement été repris.
On peut parler justement de Solidarité Paysan. Quel est son poids à l'heure actuelle dans le milieu agricole ?
Alors le poids dans le milieu agricole actuellement de Solidarité Paysan, on couvre pratiquement l'intégralité du territoire français à l'exception de 5 ou 6 départements. Ce sont 80 dans le réseau, ce sont 80 salariés, à peu près 1000 bénévoles et on accompagne 3000 familles d'agriculteurs en difficulté sur le territoire français.
Donc vous avez quand même voix au chapitre lorsqu'il y a des consultations du gouvernement pour peut-être prévoir de nouvelles règles ?
Alors, tout à fait. En amont de cette feuille de route, nous avions donc suite aux deux rapports et à la demande du cabinet du ministère, nous avions produit nos conclusions et nous leur avions fait parvenir un plan opérationnel de lutte contre les difficultés en agriculture et le suicide, ce qui contenait une trentaine de pages. Nous avons, il y a peu, début octobre, rencontré le cabinet du ministère de l'Agriculture et le cabinet de la Justice, parce que un des grands absents aussi de ce de cette feuille de route, c'est tout ce qui concerne les procédures collectives, qui sont d'importance pour les agriculteurs, qui ont un coût dont on avait soulevé la problématique auprès du ministère de l'Agriculture, mais bon, voilà, là, ça n'y est pas. On peut espérer que les préconisations que nous avions formulées à cette époque-là vont être reprises à un moment ou à un autre par le ministère de la Justice.
Donc vous parlez donc de ces sentinelles hein, qui sont en fait les créanciers des agriculteurs, c'est ce que vous déplorez un peu. Justement, est-ce que vous auriez souhaité une autre contribution d'organisation non financière pour soutenir les paysans par exemple?
Alors, il existe quelques structures où, à la marge autres que Solidarité Paysan. C'est vrai que, comme je vous le disais, notre présence sur le territoire fait de nous un opérateur incontournable sur la difficulté des agriculteurs et des paysans. C'est vrai que, comme vous le constatiez, il y a une reconnaissance, puisqu'on est cité plusieurs fois dans la feuille de route. Nous disposons d'un petit encart qui nous présente. Après, c'est plus que permettre la création de structures, c'est des aides directes aux agriculteurs. On avait également fait des préconisations par rapport au RSA. Et là, ça n'a pas été nos propositions n'ont pas été retenues. Elles concernaient également la prime d'activité. On proposait un recalcul du revenu de la famille agricole.
Vous parlez d'une tentative de suicide également, et vous saluez quelle action justement par rapport à ces familles endeuillées par exemple?
Alors, par rapport à cela, c'est vrai que d'une façon générale, on intervient plutôt après le suicide, encore que, car du fait de la qualité de l'accompagnement, il y a tout de même assez peu d'agriculteurs accompagnés par Solidarité Paysan qui en arrivent à tenter à leur jour. On intervient donc plutôt en amont, en aval, donc auprès des familles endeuillées pour contribuer à les accompagner dans la gestion de l'exploitation, voir comment dépatouiller la complexité administrative du veuf ou de la veuve qui ne sont pas toujours au courant si ce n'était pas eux les chefs d'exploitation. Et c'est là qu'est la grosse importance de notre contribution.
Donc, par rapport à ces suicides, vous notez à un moment donné, de l'année 2015, il y a eu quasiment un suicide par jour en France. Pour vous, c'est aussi un signe de cette politique agricole qui finalement est un échec pour le système agricole?
Alors, effectivement, et c'est là aussi un reproche qu'on pourrait faire d'une façon générale, que ce soit au sein des rapports d'Armisen et des deux sénateurs, c'est que il y a une tendance à induire la difficulté à un problème psychosocial plus qu'à à des données économiques. Il n'en reste pas moins que à aujourd'hui, les problématiques de politique agricole ont une grande responsabilité quant au désarroi de l'agriculture française et à son mal-être. Et peut-être que d'autres politiques agricoles et à l'occasion de la nouvelle PAC qui va être instituée, ça aurait pu être mis en place puisque le plan stratégique national permet à chaque État de mettre en place une politique agricole, indépendante un peu de la politique générale agricole européenne. Et là encore, le ministre de l'Agriculture a dit qu'il ne changerait rien à ce qu'était la politique agricole de la France lorsqu'elle était chapeautée par la politique agricole européenne. Donc pas d'aménagement et pas d'amélioration envisageable du revenu des agriculteurs français.
Et par exemple, on peut décrire un peu ce que sont les paysans auxquels vous vous occupez, dans quel secteur d'activité agricole sont-ils, maraîchage, élevage, exploitation de champs.
Alors, je dirais que c'est... on est présent sur l'ensemble du territoire français, donc il y a tout type de production. Qui vont depuis les productions d'élevage laitière, viande, ovin, bovin, caprin, volaille, jusque donc aux productions végétales avec viticulture, maraîchage et autres grandes cultures même éventuellement. Et ce qui peut être étonnant, c'est qu'on accompagne. Alors peut-être de façon plus récente, mais on accompagne des structures agricoles qui vont de chiffres d'affaires qui parfois sont dérisoires de l'ordre de 15 000 euros, jusqu'à des plus grosses avec des chiffres d'affaires de 600, 700 000 euros. Il n'y a pas d'agriculteur type en difficulté, quoi. Ça peut atteindre toute forme d'exploitation.
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant que coprésident, d'avoir été fondateur, peut-être, de Solidarité Paysan ?
Alors, je n'ai pas été fondateur de Solidarité Paysan, même si j'ai quelques antériorités, puisque ça va faire 25 ans que je suis présent dans le réseau. J'ai été auparavant, jusque dans les années 2000, viticulteur en Basse-Ardèche. Et effectivement, là, j'avais contribué à créer Solidarité Rurale en Ardèche à l'époque. Ensuite, j'ai été salarié pendant 20 ans à Solidarité Paysan Provence, voilà. Et retraité maintenant, j'ai repris du service en tant que bénévole au niveau de conseil d'administration national. Et bon, j'en suis devenu l'un des deux coprésidents de façon relativement récente, puisque ça date de juin.
On pourrait revenir aussi sur la politique agricole en général, avec les successions de gouvernements de toutes tendances. Est-ce que à un moment donné, vous auriez pu croire peut-être à une reconsidération, ou alors est-ce qu'il y a plutôt les portes fermées ?
Alors, par rapport aux politiques agricoles, dès les années 60, il y a eu des politiques agricoles mises en place pour qu'un certain nombre d'agriculteurs disparaissent, qui étaient considérés comme insuffisamment productifs. Toutes les mesures en place dites Pisani dans les années 60 qui ont contribué. Donc l'idée, c'était de contribuer à l'agrandissement des structures moyennes pour une meilleure rentabilité. Bon, on s'aperçoit que si les chiffres d'affaires ont augmenté, si les superficies ont augmenté, les charges ont augmenté de façon plus que proportionnelle par rapport aux revenus, et la difficulté a persisté. Et nous sommes toujours dans ce type un peu de système où on encourage les agriculteurs à investir, à s'agrandir, donc à avoir plus de matériel. Le film Au nom de la terre est assez illustre assez bien ce processus. Les parents d'Édouard Bergeon, on voit bien le père développer son poulailler, s'agrandir, construire. Et puis quand ça se passe mal, ben il y a plus personne qui est là pour le soutenir, quoi. Et je pense qu'on est toujours depuis des années dans cette perspective-là, quoi.
On peut peut-être aussi signaler aux auditeurs des liens internet pour se renseigner. Donc il y a une page qui s'appelle Solidarité Paysan au pluriel tout attaché .org pour commencer. Est-ce qu'il y a d'autres sites aussi ?
Alors oui, c'est assez lié. Et puis à partir du site de Solidarité Paysan, on peut retrouver des liens, que ce soit avec les... Bon, il y a forcément le site du ministère de l'Agriculture où on a des éléments. Il peut y avoir d'autres sites aussi du collectif pour une autre PAC, ou bien le site d'Impact aussi, qui est aussi un collectif dont participe Solidarité Paysan. Et où l'on trouve, je dirais, tous les éléments de proposition pour une agriculture alternative à cette agriculture industrielle.
L'inconvénient aussi du développement industriel agricole, c'est de demander de plus en plus aux paysans de produire avec de moins en moins de possibilités, peut-être aussi.
Alors, je pense que les possibilités, effectivement, elles sont essentiellement financières et les banques sont là pour prêter. La difficulté qui peut exister par rapport à ça, c'est de rester sur des dispositifs plus simples, plus autonomes, qui permettent de limiter les charges. On a fait un gros travail aussi sur l'idée de la possibilité de rester agriculteur, de redresser son exploitation en allant vers l'agroécologie. Et sur le site de Solidarité Paysan, on trouve tout un travail qui a été fait avec des fiches pour chacun des agriculteurs qui ont, par ce biais, pu rétablir leur exploitation et donc se rétablir eux-mêmes.
Ça sera la dernière question. Fut un temps où les paysans, justement, avec le partenariat des banques, se développaient, mais est-ce que c'était plutôt une contrainte pour justement pouvoir rembourser les dettes ou les... je ne sais pas comment on peut citer ça. Et peut-être est-ce que, à savoir aussi, si le paysan exerce des activités qui vont à contresens par rapport à ses opinions, je dirais, s'il est obligé de produire des végétaux ou de l'élevage à contre-cœur, mais pour contenter le système financier.
Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver lorsqu'il existe des contrats où donc le marchand. Le marchand d'aliments ou le fournisseur de poussins va donc vendre ses poussins à l'agriculteur, vendre l'aliment également, et puis rachète impérativement les poulets finis. Sauf que c'est lui qui définit les prix de vente des intrants, c'est lui qui définit le prix d'achat du poulet, et lorsqu'il y a de la casse, on le voit là aussi encore au nom de la terre, justement, où lorsqu'il y a une forte mortalité, bah, c'est l'agriculteur qui l'a à sa charge, et donc on est là dans un système, dans ces systèmes d'intégration, on est là dans un système où l'agriculteur est pieds et poings liés à l'amont et à l'aval, où il n'a aucune possibilité de gérer. Il est obligé d'acheter les aliments qu'on lui fournit, les produits végétaux qu'on lui fournit, etc. Et il est contraint de vendre sa production à la même structure qu'il achète à un prix que l'agriculteur ne maîtrise pas.
Et puis, on peut parler des problématiques climatiques et épidémiques également, puisque dernièrement, il y a obligation pour les éleveurs avicoles de maintenir enfermés ces élevages à cause de l'épidémie, pour éviter l'épidémie. Donc, est-ce que ça, c'est aussi un facteur de difficulté ?
Alors, ça peut être un facteur, effectivement, de difficulté. Les aléas climatiques semblent devenir de plus en plus nombreux. Donc, cette année, il y a eu énormément de gel printanier qui a décimé certaines productions, je pense entre autres à l'amande. Il y a eu en viticulture, de nombreuses exploitations qui ont été gelées. Donc, ça entraîne des pertes énormes d'économies de rentrée d'argent. Pour ce qui est des problématiques sanitaires, on constate tout de même que d'une certaine façon, c'est dans les élevages intensifs que les épidémies se propagent le plus facilement, alors que lors des élevages extensifs en plein air, cela est moins vrai. Et néanmoins, ce sont aussi ces élevages-là que l'on contraint à enfermer leurs animaux.
Eh bien, monsieur Gilbert Julien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie également. Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.